Et nous sommes toujours ensemble également sur Média1.com. Merci à vous de votre fidélité. Aujourd'hui, et je le disais donc en début d'émission, on fait un zoom sur ces troubles du comportement alimentaire, des troubles qui se caractérisent essentiellement par un rapport, alors dit anormal, à la nourriture. Dans certains cas, une prise en charge médicale devient nécessaire. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, notre spécialiste en psychiatrie, docteur Othmane Lorabi. Bonjour docteur.
Bonjour Maliem, et ravi d'être avec vous sur les antennes de Média. Alors, j'adore votre introduction parce que elle fait d'emblée le focus sur le rapport anormal à la nourriture. C'est vrai que quand on va parler de troubles des conduites alimentaires, le plus souvent, ça va être ça, le comportement qui est visible. Et donc, ça va se traduire, quand on parle de rapport anormal, déjà par l'importance donnée donc par le sujet à l'alimentation, que ce soit en termes de pensée ou en termes d'effort qui est fait pour aller s'acheter telle ou telle chose, etc. Ou tout simplement, encore une fois, un problème vis-à-vis du comportement alimentaire vis-à-vis de la nourriture, ne pas en manger ou trop en manger. Oui. Mais en fait, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu quand on parle de troubles des conduites alimentaires avant de parler de leurs différents types. C'est qu'il y a presque toujours une préoccupation aussi qui est centrée sur le physique. Ça, c'est quasiment systématique, en tout cas pour l'anorexie mentale et pour la boulimie. On a une préoccupation excessive de la difformité. On a une préoccupation excessive d'avoir un corps flasque, un corps mou, un corps qui n'est pas ferme. Un corps qui n'a pas tel ou tel critère esthétique, entre guillemets. On a des focus sur, par exemple, au niveau des clavicules, est-ce que les clavicules ressortent bien ? Au niveau des hanches, est-ce que les hanches est-ce que les cuisses se touchent ou ne se touchent pas ? Ça, c'est des petits stéréotypes. Et donc, la préoccupation de l'image corporelle, autour de l'image corporelle, est extrêmement importante quand on va aborder le sujet du trouble des conduites alimentaires, et donc ce qui fait que le comportement vis-à-vis de l'alimentation est en fait secondaire à cette préoccupation. Et ces préoccupations, comme je le disais, bon, il y a des noms barbares, dysmorphesthésie, dysmorphophobie, etc. C'est tout simplement pour indiquer qu'il y a une peur excessive chez l'individu de ce que je vous disais, d'une difformité, de paraître gros, d'être gros, de ne pas avoir tel ou tel attribut physique, de ne pas avoir tel ou tel tour de taille, ce genre de choses. Mais aussi, il y a un autre mécanisme, c'est que quand bien même ces individus se voient dans le miroir et objectivement voient qu'ils peuvent avoir une silhouette qui est absolument svelte d'après les critères, je dirais généraux, que soit au niveau de l'IMC ou même au niveau du tour de taille, etc. Et ben la personne ne se retrouve pas rassurée et voit toujours des défauts sur l'image qui lui est renvoyée. Alors pour parler rapidement des types, je vous promets que c'est pas très important de faire beaucoup la distinction. Ouais. On va parler d'anorexie mentale. L'anorexie mentale, ça va correspondre aux troubles des conduites alimentaires où le poids de la personne est extrêmement bas. Bien en deçà du poids minimal, on va dire, qui peut assurer une bonne santé. Et ça va se manifester donc par plusieurs autres troubles du comportement, c'est-à-dire un surinvestissement physique et sportif, le fait d'être dans la performance, même intellectuelle, d'avoir un niveau d'activité qui est élevé. Ça, c'est l'anorexie mentale. Mais d'un point de vue médical, on va dire que le poids est tellement altéré que souvent, en fait, l'un des critères diagnostiques, c'est qu'il y a une disparition des menstruations. L'anorexie mentale est un trouble qu'on voit le plus souvent chez les jeunes femmes, le plus souvent à l'adolescence, c'est là que ça apparaît, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça qu'il y a ce critère diagnostique d'aménorrhée, mais il faut savoir que aussi chez les hommes, on peut porter un diagnostic d'anorexie mentale. Bon, bien sûr, le critère de disparition des menstruations ne va pas être respecté, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de figé et d'extrêmement rigide en termes de critères pour pouvoir porter le diagnostic. Et il y a cette dimension d'une perception totalement altérée de l'image du corps. C'est-à-dire que c'est la caricature de la personne qui est absolument je ne vais pas dire mince, je vais parler de maigreur pathologique, qui est absolument maigre, pathologiquement parlant, et qui va quand même toujours authentiquement se sentir gros, se sentir grosse, se sentir mal à l'aise dans son corps, avoir énormément de difficultés avec les différentes sensations corporelles, hein, surtout les sensations qu'il y a dans la sphère digestive, donc abdominale, et c'est ce qui fait que bon, on rentre dans un cercle vicieux parce que cette faim chronique entre guillemets qui va être induite pendant l'anorexie mentale va se nourrir d'elle-même, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on rentre dans un cercle vicieux. Quand on a faim et qu'on ne mange pas pendant longtemps, on n'a plus faim, on n'a plus cette sensation de faim. C'est pour ça que ça s'appelle une anorexie mentale. Et c'est extrêmement difficile de se forcer, effectivement, à se nourrir, alors que physiquement, nous n'éprouvons pas la sensation de faim, et que physiquement, nous éprouvons toutes les difficultés du monde à supporter des gargouillements au niveau du ventre, l'impression d'avoir un estomac à moitié plein, etc., etc. L'autre type le plus médiatisé, oui, on va dire, et peut-être qui est aussi plus répandu que l'anorexie mentale, c'est la boulimie.
Exactement.
Alors, il y a souvent une petite confusion entre la boulimie et l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est tout simplement le fait de manger beaucoup avec un poids qui va être en hausse à ce moment-là. Et l'hyperphagie, pour en dire un mot rapidement, l'hyperphagie, ça désigne les fameuses fringales. Quand on se retrouve à vouloir du sucré le soir, à manger un peu plus souvent que d'habitude. Et le plus souvent, c'est une réaction d'adaptation à un stress qui est induit, soit par, je ne sais pas, ça peut être des problèmes dans l'environnement, ça peut aussi être un stress physique, beaucoup de choses. Et en fait, l'hyperphagie va être à ce moment-là un mécanisme compensateur, de la souffrance ou de la détresse psychologique que ressent la personne. Mmh. Et l'hyperphagie, le plus souvent, c'est quelque chose qui est transitoire, passager, qui va se résorber avec les éléments qui ont induit son apparition. Alors ça, c'était pour l'hyperphagie. Pour la boulimie, c'est autre chose. La boulimie va d'abord, on va introduire la notion de crise de boulimie. Et la crise de boulimie, ça se définit par un laps de temps extrêmement court, oui, pendant lequel une très grande quantité de nourriture est ingérée. Mmh. Voilà la définition de la crise de boulimie. Et ce qu'il faut savoir quand on va parler de boulimie au sens psychiatrique du terme, la boulimia nervosa, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il y a d'abord ces crises, effectivement, mais il y a un des critères diagnostiques qui est fondamental, c'est la culpabilité qui est ressentie par l'individu qui vient de finir une crise de boulimie. C'est ça la différence majeure aussi avec l'hyperphagie, parce que en général, quand on se fait plaisir en mangeant du sucré, on ne va pas se flageller par la suite en se disant « je ne vaux rien, je suis incapable, j'ai encore une fois cédé à la tentation », alors que ça, ce sont plutôt des idées qui vont arriver justement dans ce contexte de boulimie. La boulimie est souvent associé à des vomissements. Et là, à ce moment-là, les vomissements, ce sont des mécanismes, de défense pour ne pas grossir.
Oui,
pour ne
des pas vomissements grossir volontaires, on le rappellera,
absolument,
docteur.
Absolument, ils peuvent être volontaires au début, mais avec l'habitude, ils peuvent devenir involontaires et systématiques. C'est une question d'habitude. Et donc, et ce qui permet d'avoir ce cercle vicieux de crise de boulimie, culpabilité, plus ou moins vomissement, c'est là aussi une préoccupation excessive par rapport à l'image de soi, exactement comme l'anorexie mentale. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on a une boulimie, quand on a une authentique boulimie, quand on pioche un petit peu dans l'historique de la personne, on retrouve des antécédents d'anorexie mentale qui ont pu être là pendant quelques mois, une petite année comme ça pendant l'adolescence et qui ont disparu. Mais en fait, ils n'ont pas disparu, c'est que ça a évolué vers ce mode particulier de troubles des conduites alimentaires. Et là, je vous ai donné les trois grands types dans leur description typique. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres troubles des conduites alimentaires, notamment des troubles des conduites alimentaires qui peuvent apparaître chez l'enfant dans d'autres contextes. Le fait d'être hyper sélectif dans l'alimentation, l'alimentation, des choses comme ça. Bon, ça, ça sort un petit peu du sujet général des troubles des conduites alimentaires tels qu'on les entend, je dirais, dans la vie de tous les jours.
Alors, ces personnes à risque
C'est absolument pas une histoire de sexisme, mais on va dire que la gente féminine est surreprésentée hein, dans cette catégorie de troubles psychiques. Hein, c'est-à-dire que très très souvent, eh ben, ce sont des jeunes femmes. Bon, c'est pas exclusif quand on parle de jeunes femmes, ça peut aussi être une préadolescente, ça peut être une dame aussi d'âge mûr, un peu avant la ménopause, des petites choses comme ça. Mais dans l'immense majorité des cas, on retrouve des jeunes femmes, donc à partir de l'adolescence et les adultes jeunes, qui sont le plus souvent, qui souffrent le plus souvent de ce genre de maladie.
C'est parce qu'elles sont plus émotives que la gente masculine ?
On va dire que les troubles des conduites alimentaires qui sont le plus volontiers liés à ce que vous appelez émotivité, ça va plutôt être l'hyperphagie. L'hyperphagie, dans sa forme simple que je vous ai décrite, les fringales, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas d'anomalie de la perception du corps, il n'y a pas de préoccupation excessive, etc. Hein, donc, non, les femmes... Il n'y a pas d'explication à ce jour qui est retenue et qui soit convaincante et absolument solide d'un point de vue scientifique, mais je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que la femme a probablement un peu plus de pression de la part de l'entourage, de la part de la société, pour se conformer à, je vais dire, des critères physiques de beauté, hein, n'est-ce pas ? Et donc, ces éléments-là font que très probablement, les jeunes femmes sont plus impactées. Et d'ailleurs, ce qui est en faveur de cette explication, c'est qu'il semble qu'il y ait une petite augmentation hein, de ces troubles des conduites alimentaires depuis l'avènement des réseaux sociaux. Hein, pourquoi je parle des réseaux sociaux ? C'est pas seulement les histoires de se comparer par rapport à ses pairs, c'est aussi parce qu'il y a l'utilisation massive de filtres et d'intelligence artificielle qui va modifier un petit peu la silhouette corporelle. Mmh. Et donc, si bien que, en fait, au final, le vrai problème à ce moment-là devient une altération de la perception du corps, avant même qu'il y ait cette problématique de troubles des conduites alimentaires. Donc, il y a vraisemblablement cette histoire de pression sociale.
Pour revenir donc à ces personnes à risque, alors, oui. Quand faut-il consulter ?
Alors, c'est une très très bonne question, parce que figurez-vous que la plupart des personnes qui ont par exemple une boulimie peuvent vivre mais des décennies avec un entourage qui n'est absolument pas au courant de la problématique et qui ne s'est jamais rendu compte de rien. Donc pour la boulimie, très souvent, ben, on est face à une espèce d'épuisement ben, justement relatif au déploiement de tous ces efforts pour pouvoir avoir ces crises de boulimie, pour se cacher, pour pouvoir avoir des vomissements, etc. Et c'est plutôt le plus souvent quand il y aura une comorbidité, c'est-à-dire une autre maladie qui va se rajouter, comme une dépression, comme des troubles du sommeil ou des choses là, qui vont faire que la personne va consulter d'elle-même. Concernant l'anorexie mentale, le problème est tout autre, parce que quand on parle d'anorexie mentale, la règle, c'est que la personne ne veut jamais consulter. Hein, ça, c'est la règle. Donc, le plus souvent, on est face à des personnes qui sont amenées par l'entourage suite à une détérioration de l'état physique, de l'état de santé physique. Et d'ailleurs, la plupart du temps, l'entrée vers les soins des personnes qui souffrent d'anorexie mentale va se faire après un passage aux urgences pour un malaise, pour des troubles électrolytiques, enfin des complications hein, qui sont liées à cette anorexie mentale. Il faut consulter, comme je disais, quand il y a une souffrance supplémentaire qui s'installe, ça c'est le plus souvent pour la boulimie et pour l'hyperphagie, et puis l'entourage proche, notamment les parents, parce que le stéréotype c'est la jeune adolescente, les parents doivent s'alarmer quand ils voient qu'il y a un amaigrissement trop important. Adolescent ou toute adolescente qui maigrit à vue d'œil n'est pas forcément anorexique, ça je tiens à le souligner, mais en tout cas les perturbations de la faim, de la sensation de faim et de l'alimentation sont des perturbations des fonctions automatiques du cerveau. Et donc, c'est toujours, je dirais, péjoratif et ça mérite toujours d'aller voir et consulter, d'aller voir un psychiatre.
Justement, vous avez parlé du rôle de cet entourage. Alors, ils sont peut-être nombreux à nous écouter en ce moment même. Que diriez-vous donc à toutes ces personnes qui nous écoutent ?
C'est une super question parce que pour l'entourage le plus souvent souffre et souvent l'entourage endosse veut endosser une part de responsabilité en se disant peut-être notamment les parents c'est peut-être ça. Que je prépare pas de bonnes choses à manger peut-être des petites choses comme ça et font un peu trop le focus sur qu'est-ce qu'il y a à manger, est-ce que la personne qui souffre d'anorexie est venue manger avec nous à table ou pas. C'est ça en fait l'erreur, c'est que dans les relations familiales, parce que là on va parler plutôt de famille, dans les relations familiales, quand il y a un adolescent ou une adolescente plutôt anorexique, il faut pas faire le focus sur l'alimentation, parce que l'alimentation devient à ce moment-là l'objet d'une espèce d'enjeu relationnel entre la jeune fille et ses parents. Ça devient une espèce de lutte de pouvoir, une lutte d'autorité, etc. Alors que justement, pour arriver à se sortir parce qu'on ne s'en sort pas forcément tout seul, mais pour arriver à sortir des troubles des conduites alimentaires, il faut justement pouvoir petit à petit remettre l'alimentation à sa place, c'est-à-dire une nécessité, par moment un vecteur de plaisir, mais uniquement par moment, et jamais une préoccupation. Hein, ça, c'est très important. Donc, une fois que les discussions familiales tournent autour de la nourriture, tournent autour de le poids, est-ce que tu as maigri, est-ce que tu n'as pas maigri, est-ce que tu as mangé aujourd'hui, est-ce que tu as bu beaucoup d'eau, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore fait trop de sport, etc. Et bien le plus souvent c'est contre-productif. Donc ce qu'il faut faire quand on est dans l'entourage d'une personne qui souffre, c'est un, l'accompagner dans le fait qu'elle puisse aller chercher de l'aide de la part d'un professionnel, ça c'est la première des choses, et deuxièmement, rester dans un rapport juste de bienveillance et essayer le moins possible de parler de ce sujet. Il faut le rendre un peu tabou, entre guillemets, c'est rare que je le dise, mais par rapport à l'alimentation, il faut rendre ça un petit peu tabou dans la sphère familiale. On ne va pas en parler, les choses sont prises en charge médicalement parlant, et nous, on va plutôt s'atteler en tant que parents à tout le reste qui fait qu'on entretient une relation avec notre enfant qui en souffre, les discussions banales, les choses autour des devoirs, c'est-à-dire que la vie doit continuer normalement et ne pas s'arrêter et tourner exclusivement autour de l'alimentation.
Merci beaucoup, docteur Asman Lorabi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie à Casablanca. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Merci à vous.
Et c'est un entretien réécoutable, évidemment, sur notre site média.com.